Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Lucie. Elle exerce la profession d'infirmière en service d'hématologie, en secteur de greffe de moelle osseuse. Bonne écoute! Bonjour Lucie!
Bonjour Marielle!
Comment tu vas?
Ça va bien, merci, et toi?
Ça va très bien, je te remercie. Je suis ravie de t'avoir à mon micro ce matin, avec donc un épisode qui va faire écho au précédent épisode, qui est un épisode un peu témoignage où je raconte justement la procédure pour devenir donneur potentiel de moelle osseuse. Donc pour les personnes qui débarquent sur cet épisode avec Lucie, je vous invite vivement à écouter le précédent, qui est pas très long, il dure une dizaine de minutes, pour comprendre voilà, le cheminement pour devenir donneur de moelle osseuse. Puis j'ai un petit peu planté le décor sur qu'est-ce que la moelle osseuse, qu'on ne doit pas confondre avec la moelle épinière, etc. Et aujourd'hui, donc Lucie, je t'invite à mon micro pour avoir un regard vraiment plus professionnel sur la moelle osseuse, comment on la prélève, comment on l'injecte au patient, qu'est-ce qu'on traite avec cette moelle osseuse. Et pour commencer, je te laisse te présenter pour les personnes qui nous écoutent.
Alors bonjour à tous, je m'appelle Lucie, j'habite dans le sud de la France. Je suis infirmière depuis 2014. Je passe du temps au travail, mais quand je suis en repos, j'ai ma famille à proximité, donc je passe beaucoup de temps avec eux, avec ma petite sœur. Maintenant que les mesures au niveau de l'année sont un peu plus permissives, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais j'apprécie retrouver mes copines que j'ai aussi très présentes. J'aime beaucoup lire, je fais de la danse depuis plus de 20 ans et mais finalement, les semaines sont quand même bien rythmées.
Ben oui, j'imagine avec tout ça.
Voilà.
Est-ce que devenir infirmière pour toi, c'était une évidence? C'est quelque chose qui... c'est une idée avec laquelle tu as grandi? Comment c'est arrivé?
Alors, c'était pas forcément une évidence. J'ai pas trop de souvenirs de très petite si c'est ce que je voulais faire. Je crois que le premier métier dont je me souviens que j'ai eu envie de faire, c'était en sixième. J'avais une prof d'histoire incroyable. On avait parlé de l'Égypte, de toutes les divinités, etc. Et vraiment, j'étais hypnotisée par cette dame. Le premier métier que je me suis dit que j'aimerais faire, c'était ça. Et finalement, alors ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était pareil. Courant collège, j'ai rencontré un petit cousin, le fils d'un cousin de mon papa qui vivait en Guadeloupe. Donc, je l'ai connu assez petit. Et je sais pas, j'ai eu un bon feeling avec lui. J'étais un peu plus âgée, donc c'était hyper cool de passer mes après-midi avec lui quand on était chez mes grands-parents, tout ça. Et je me suis dit, bah, en fait, travailler avec les enfants, ça peut être cool. J'ai certainement envie d'en faire mon métier. Donc, au détour de recherche, je me suis dit, peut-être sage-femme. Sage-femme, j'ai su qu'il fallait faire médecine. C'était des études qui étaient quand même assez longues. Donc, ça m'a un peu... pas refroidi, mais ça m'a quand même posé question parce que j'ai jamais eu de soucis à l'école, mais de partir sur des études si longues avec les premières années qui sont assez exigeantes en termes d'investissement, ça m'a un peu, ben, peut-être un peu fait peur. Et finalement, j'ai su qu'il y avait aussi l'option d'être puéricultrice. Par rapport aux études qu'il fallait faire, je me suis orientée vers infirmière dans un premier temps. Et en fait, c'est depuis l'année de la troisième, en fait, que je sais que je veux partir là-dessus. Donc, c'était assez simple au lycée. Mon parcours était déjà tout tracé. Je n'avais pas trop de questions à me poser pour savoir vers quelle filière m'orienter. Donc, j'ai fait un bac S. Après ça, j'ai fait une année de prépa avant de rentrer à l'école, du coup, en 2011.
Très bien. La formation de puéricultrice, qui est donc une spécialité qu'on effectue une fois que les études... une fois qu'on a son diplôme d'infirmière en poche, tout simplement.
Après le diplôme, tout à fait.
Et alors, du coup, pendant les études, t'as toujours réfléchi à cette spécialité? Ça t'a toujours un peu trotté dans la tête ou...
Alors, c'est vrai que ça m'a jamais trop quitté. J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de stages en pédiatrie, mais par contre, j'ai fait mon stage pré-pro, qu'on appelle, donc le dernier de troisième année, avant l'obtention du diplôme. Et ce stage-là, je l'ai fait en hémato-oncologie, en pédiatrie, du coup, à l'hôpital. Mais ça m'a permis de faire le lien, donc là, actuellement, avec ma situation, parce que je travaille en hématologie. Et avant de savoir que je travaillerais là-dedans, ça me faisait un premier pied dans... le monde de la pédiatrie avec une prise en charge d'enfants qui était quand même complètement différente de l'idée que j'imaginais, parce que moi, je m'étais dit que, en fait, une puéricultrice, ça pouvait travailler en crèche, sans forcément pousser le projet pro plus loin. Mais bon, c'est vrai qu'avec l'école, on a un peu plus l'occasion d'approfondir les différents parcours et les spécialités, l'opportunité que ça peut nous donner au niveau de la vie professionnelle après ça.
Ouais, puis la variété de lieux d'exercice. C'est vrai qu'on démarre dans les études avec des a priori. C'est vrai qu'une puéricultrice, on la retrouve dans tellement d'endroits.
Ouais. Et finalement, voilà, comme une infirmière peut travailler et dans des services entre guillemets conventionnels à l'hôpital, et finalement, on peut la retrouver, bon, à domicile, on commence à connaître, mais voilà, dans des structures complètement différentes. À l'école, les infirmières, le nom va m'échapper.
Scolaire.
Les infirmières scolaires,
je crois, hein, ouais.
C'est ça. Et voilà, les infirmières au travail, c'est vrai qu'il y a quand même une variété incroyable de lieux d'exercice finalement.
Mais il est marrant ce stage, donc ce stage qu'on appelle pré-professionnel, en fait, on l'effectue dans un service qui n'est pas du tout le service dans lequel on est censé travailler derrière, il n'y a pas du tout d'obligation.
Non, c'est vrai.
Mais on nous met dans des dispositions en tant qu'infirmier diplômé, donc avec les mêmes responsabilités, la même charge de travail, on essaye vraiment de nous préparer à la vie professionnelle tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui, du coup, finissent par avoir un coup de cœur pour le service dans lequel ils arrivent à ce moment-là, parce que c'est la première fois qu'on a l'impression d'exercer comme un vrai infirmier, entre guillemets. Et, du coup, vrai. Toi, c'est un peu ce qui t'est arrivé.
Alors, c'est vrai que j'ai de bons souvenirs de ce stage. Je m'étais assez bien sentie avec l'équipe. Finalement, travailler avec des enfants qui sont quand même, qui pouvaient aller de vraiment très jeunes, parce que je me rappelle d'un petit bébé de 18 mois dont je me suis occupée. On n'a pas des nourrissons parce qu'il y a d'autres services qui s'en occupent, mais en tout cas, là, dans le service d'onco-hémato, c'est vrai que c'est la plus petite, je pense, dont je me souviens, donc 18 mois. Et la plus grande, il me semble qu'elle avait 15 ans. Donc, la relation qu'on a avec des enfants avec un écart d'âge si grand, avec des pathologies différentes, donc, n'est pas la même. Et ce que j'appréhendais pas forcément en pédiatrie, alors que c'est quand même maintenant avec le recul, je me dis, c'est complètement logique. C'est la prise en charge aussi des parents dans les soins. Parce que la relation soignant-soigné, c'est pas juste en dualité avec le soignant et du coup le soigné, l'enfant. Mais il y a un troisième acteur qui sont les parents en général, qui sont dans la mesure du possible très présents. Et c'est vrai que c'était un triangle au niveau des soins qui était quand même indissociable. C'était rare que les parents soient pas présents. Certains pouvaient rester dormir sur place. Souvent maintenant, chez les adultes, on demande aux accompagnants de sortir pendant les soins parce que tout le monde travaille mieux comme ça. On ne sait pas comment l'accompagnant peut se comporter. Il y en a certains qui, les prises de sang, c'est compliqué. En tant que patient, mais c'est vrai que je ne peux pas gérer et le patient et l'accompagnant si l'accompagnant fait un souci. Et là, en pédiatrie, c'est vrai que les parents étaient inclus à part entière dans le soin parce que c'est finalement des doudous. Ça rassure les enfants par rapport à la prise en charge, etc. Voilà, ça, c'était une partie de la prise en charge en fait en pédiatrie à laquelle je n'avais pas forcément conscience avant de mettre un pied dans le service. Donc, le stage s'est terminé, il s'est plutôt bien passé. J'ai été diplômée, du coup, l'été 2011. Et j'avais fait les démarches pour postuler, du coup, à l'hôpital. Une fois que le dossier est envoyé et que la candidature est reçue, on commence pas... Enfin, en tout cas, moi, dans ma situation, j'ai pas commencé à travailler de suite à l'hôpital. J'ai été rencontrée par une cadre supérieure de santé. Alors ça, je sais pas comment ils décident quel cadre on voit. Mais elle m'a fait passer un petit entretien avec le bilan de ma formation, les stages dans lesquels j'étais passée, est-ce que j'avais des secteurs d'activité qui me tentaient plus que d'autres par rapport à l'exercice de ma profession.
Oui, elle t'a quand même un peu invité à expliquer ce que tu avais apprécié pendant tes stages, peut-être les services qui t'intéressaient.
Oui, de savoir s'il y avait des stages que j'avais faits dans lesquels je me voyais travailler, donc il y en avait quelques-uns. Et forcément, on a discuté de l'hémato-onco en pédiatrie pour le dernier stage. Et finalement, l'entretien en est resté là et elle m'a dit qu'on se recontacterait aux besoins des différents pôles. parce que de dire travailler en cardiologie, en pneumologie, ça m'intéresserait. En fait, notre profil est orienté vers les cadres supérieurs de santé de ces pôles de santé particuliers. À l'hôpital, j'ai été contactée par la cadre sup d'hématologie presque 6 mois après. Donc l'entretien, je l'ai passé en juillet. À la suite de ça, j'ai fait de l'intérim pendant quelques mois et fin décembre, j'ai été contactée donc par cette cadre de santé. Finalement, je crois 2 jours après, on passait un entretien ensemble et 15 jours après, je commençais à travailler au CHU. Donc le démarrage a été en soi long, oui et non, parce que finalement, de juillet à décembre, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Mais par contre, entre la rencontre avec cette cadre sup et le début de ma prise de poste, il s'est passé une quinzaine de jours.
Voilà, oui, après, ça s'est
nettement accéléré.
Oui. Est-ce que tu peux nous raconter quel profil type de patient, quelle pathologie on peut rencontrer dans ces services d'hématologie-oncologie?
Alors, l'hématologie, l'oncologie, c'est 2 choses différentes. L'oncologie, c'est tout ce qui a trait au cancer. L'hématologie, c'est un peu plus spécifique parce que c'est tout ce qui est le cancer du sang. Donc, une des maladies phares dont on entend le plus parler, c'est la leucémie. Mais il existe aussi des lymphomes de différents types, des myélomes, et d'autres maladies qui sont un peu, en termes de fréquence, qui sont un peu moins fréquentes. Donc moi, dans le, en tout cas en hématologie, ça va être voilà, les cancers du sang qui sont pris en charge et qui sont traités. Okay. Moi, dans mon service particulier, donc je travaille en hématologie, mais dans le service de greffe de moelle osseuse, il y a aussi ces types de maladies qui sont... Les patients avec ces types de maladies qui sont accueillis pour 2 prises en charge qui sont quand même distinctes. Pour certaines maladies, on va avoir besoin d'une allogreffe de cellules souches. Donc là, ça renvoie vraiment à l'épisode du podcast que tu as fait il y a quelques semaines. L'allogreffe, en fait, moi, je sais qu'un moyen mnémotechnique, quand je suis arrivée dans le service, c'est « Allô, j'ai besoin d'aide, on fait appel à quelqu'un d'extérieur ».
Ah, mais c'est génial !
Ouais, ça m'a permis de faire... quand on arrive dans ce service, c'est assez dense en termes d'informations, de pathologies, de choses auxquelles il faut penser, faire les liens. Donc, j'essaie de faire des petits moyens mnémotechniques pour savoir voilà, qu'une allogreffe, ça demande d'appeler quelqu'un, en gros, pour lui demander de l'aide.
Oui, c'est la greffe qui vient d'autrui, quoi.
Oui, c'est personnes différentes, à la différence d'une autogreffe.
Exactement.
Autogreffe, on est autonome. Et donc, on nous réinjecte nos propres cellules souches.
D'accord. Donc, ça veut dire que le patient bénéficie d'un prélèvement sur lui-même.
Oui.
Alors, ce prélèvement, ensuite, est-ce qu'il est, je trouve pas le bon mot, mais enrichi, amélioré par un système, un procédé chimique, pour qu'ensuite on le réinjecte ? Comment ça se passe ? Parce que ça, je crois que c'est quelque chose dont on n'entend pas parler. Enfin, je parle pour mon cas personnel, mais j'étais pas au courant que ça existait, l'autogreffe.
Le principe de l'autogreffe avec le recueil de cellules souches périphériques, c'est les mêmes cellules souches, finalement, qu'on va prélever dans le cadre d'une allogreffe. Sauf que dans l'allogreffe, il y a un receveur qui est malade et un donneur qui est sain. Le même principe pour ce recueil de cellules, en fait, ça s'applique donc dans les 2 cas. Ça se passe comme un don de plasma ou de plaquettes. En fait, le sang est prélevé. Ça passe comme dans une grosse centrifugeuse, où les machines, c'est quand même incroyable, moi je suis toujours aussi espantée, mais arrivent à décider quelles cellules garder, des cellules primitives qui n'ont pas encore de ligne de vie définie.
Oui, c'est un peu les bébés globules rouges, bébés plaquettes, bébés globules blancs qui ne savent pas encore ce qu'ils vont devenir,
exactement, c'est ça ? Oui. Donc ces cellules, elles sont prélevées en fonction des maladies, donc ça c'est surtout pour des autogreffes, mais pour les allos c'est pareil. En fonction des maladies, il faut que la richesse des cellules prélevées soit la plus haute possible. On parle en 10 puissance 6 hein, au niveau du nombre de cellules. Donc ces cellules, elles sont triées par la machine, prélevées, et ensuite tout le reste du sang qui ne sera pas utilisé sera réinjecté au patient.
D'accord.
Comme pour un don de plasma ou de plaquettes, où finalement il y a le plasma ou les plaquettes qui sont recueillies et tout le reste est réinjecté, à la différence d'une donde de sang qui est du sang total.
Et en quantité, du coup, est-ce que tu sais, cette quantité qu'on prélève, du coup, ça représente combien de millilitres ? Enfin, je sais pas, juste pour avoir une idée de cette représentation.
Alors, c'est très variable. Alors, en tout cas, quand on greffe, nous, quand on réinjecte les cellules, il y a des poches de greffons qui sont petites, qui peuvent être inférieures à 200 millilitres. Ah, et oui. D'autres poches qui sont quand même un peu plus conséquentes, qui peuvent aller jusqu'à... 4, je crois que le plus gros que j'ai vu, c'est presque 450 millilitres.
Ah oui, donc c'est très variable.
Oui, sachant qu'une autogreffe, pour le recueil des cellules, le patient peut être amené à faire plusieurs jours de recueil d'affilée tant que la richesse espérée par les médecins n'est pas acquise, n'est pas...
Atteinte. Ok.
Donc en fait... Il se peut que dans une poche de cellules réinjectées, il y ait finalement trois prélèvements de cellules différents.
Ah, on peut être amené à, oui, à remélanger ces prélèvements, oui, pour faire en sorte qu'ils soient le plus riches possible.
Tout à fait.
Ah, ok.
Par contre, par rapport aux cellules qui sont prélevées, elles sont pas, alors elles sont nettoyées, lavées de tout ce qui pourrait interférer au niveau de la réinjection, mais par contre, elles ne sont pas enrichies de façon particulière parce que les cellules prélevées sont en fait les cellules qui sont attendues avant la réinjection. Par contre, il y a à l'intérieur de la poche des produits de conservation. Pour une autogreffe, ces prélèvements peuvent être congelés, donc dans de l'azote liquide, qui c'est une température qui descend très très basse. Et des patients, notamment, je pense à des gens qui ont un myélome, peuvent avoir une première autogreffe, je dis n'importe quoi, en 2011, avoir eu un recueil de cellules suffisant, et 10 ans après, si on se rend compte que la maladie recommence à être active, les cellules qu'on a conservées peuvent être décongelées et réutilisées vraiment longtemps après.
Ah oui, le fait de congeler de façon si... avec une si basse température, ça rend le prélèvement assez stable pendant plusieurs années.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et physiologiquement, dans le sang, ces cellules souches, elles viennent compléter, remplacer les cellules qui ont été atteintes par le cancer du sang.
Le principe, en fait, c'est... les cellules souches, c'est quand même incroyable, mais ça retrouve son chemin rapidement. Elles savent que la maison, c'est la moelle osseuse à l'intérieur des os. Et une fois qu'elles sont réinjectées, elles vont reprendre le chemin de la maison.
C'est incroyable.
Quand le patient rentre, nous, ce qu'on fait dans un premier temps... c'est de le mettre en condition pour recevoir ses cellules saines. Donc que ce soit une autogreffe ou une allogreffe, c'est le même principe. On parle d'une période de conditionnement où, selon la maladie, selon le protocole de greffe, les chimios peuvent différer. Donc le conditionnement qui est le plus court, c'est pour les myélomes, où c'est une journée de chimio, une journée de repos et la greffe qui arrive en suivant. La greffe, on parle de J0. Pour se rendre compte de la période avant et après. Et au niveau des allogreffes, le conditionnement qui est le plus long, c'est en général un conditionnement de 15 jours séquentiel, avec une première partie de chimiothérapie, des jours de repos, une deuxième partie avec des chimios avant la réinjection.
Oh, c'est une épreuve pour le corps quand même.
Oui, c'est très lourd physiquement parce que les chimios, c'est... elles font pas de tri, elles sont pas sélectives, elles détruisent tout sur leur passage. Pour que la moelle osseuse, en fait, on lui demande de repartir à zéro, donc d'arrêter de produire les cellules globules blancs, globules rouges, plaquettes. Et avec la réinjection des cellules souches, qui vont reprendre le chemin, finalement, la moelle osseuse, elle va repartir à produire normalement.
Donc la chimiothérapie, elle vient faire un premier... Vraiment, je vulgarise, mais elle vient faire un premier nettoyage.
Oui.
Mais comme tu dis, le problème de la chimiothérapie, c'est qu'elle n'est pas sélective, donc elle nettoie trop même des cellules, oui, qui sont probablement saines, ce qui affaiblit le patient. Et dans un deuxième temps, la greffe, qu'elle vienne d'autrui ou du propre patient, elle vient se réinjecter dans la moelle osseuse, retrouver la moelle osseuse pour recréer à nouveau des cellules souches.
Oui, tout à fait. Donc il y a un petit temps de latence entre la réinjection et ce qu'on appelle... la sortie d'aplasie. En fait, les chimiothérapies mettent la moelle au repos complet et du coup, il y a un arrêt de production de toutes les cellules de la moelle osseuse, donc les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et cet état est qualifié d'aplasie. Donc l'aplasie, c'est en fait les globules blancs qui sont très bas. On parle d'aplasie en dessous de 100 globules, de 1000 globules blancs, pardon, et d'aplasie profonde en dessous de 100 globules blancs. Donc il y a vraiment plus du tout de défense immunitaire dans l'organisme du patient.
Donc d'où la présence de chambres stériles et puis de protocoles très 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 pointus pour vous, pour faire en sorte que ces patients ne soient pas contaminés par les germes qui les entourent.
En fait, mon service, c'est un secteur protégé, même un secteur stérile, on peut le dire, hautement protégé qu'on appelle. Il n'y a pas d'aller-venue avec les services qu'on peut... On ne rentre pas dans mon service comme dans un moulin, on rentre par badge. Et c'est même nous, pour les visiteurs, qui filtrons les entrées. Et au niveau du patient, il est dans une chambre stérile, avec des flux pour traiter l'air le plus possible, avec toutes les poussières qui sont envoyées au sol pour éviter que le patient les respire. Le bio-nettoyage de la chambre du patient, de son environnement, est fait quotidiennement par les équipes du service. Et avant de rentrer donc, dans la chambre du patient, il y a un sas entre le couloir et la chambre, où nous, on a un petit chariot avec du matériel qui nous permet de préparer nos soins. Avant de rentrer donc, dans la chambre du patient, il y a toujours ce sas entre le couloir et sa chambre.
Et donc, j'imagine que vous faites en sorte d'avoir des déplacements les moins fréquents possibles pour éviter de contaminer le patient. Donc, il faut penser à regrouper ses soins.
Alors, c'est vrai qu'on a... On a des rythmes au niveau des journées qui sont assez réguliers. On a un service qui est apparenté quand même aux soins intensifs. Donc, au niveau des surveillances, c'est quand même assez rapproché. On contrôle les constantes 4 fois par jour. C'est réparti au niveau des différentes équipes qui interviennent auprès du patient. Et c'est vrai que, voilà, à 8 heures, on sait que on va voir le patient pour la prise de constante, la distribution des médicaments, les premiers soins intraveineux s'il y en a. On rentre tout ce qui va être nécessaire pour faire le bio-nettoyage dans la chambre du patient, du linge, un pyjama. Parce que nos patients, ils n'ont pas ou très peu d'affaires personnelles. Justement pour essayer de limiter le plus possible le risque d'infection quand ils seront dans la période critique au niveau de l'aplasie.
Et cette aplasie, bon, j'imagine qu'il y a plein de cas particuliers, mais elle dure combien de temps, grosso modo, avant l'injection de la greffe de moelle ?
Alors, chez les allogreffés, l'aplasie, elle est souvent présente avant la réinjection des cellules, donc avant la greffe. Chez les autogreffés, il arrive que l'aplasie intervienne après la réinjection des cellules.
D'accord.
Pour, par exemple, la prise en charge d'un myélome, souvent, l'aplasie va se faire en gros de J5 à J12. Et 12 jours après la greffe, on considère, parce qu'au niveau des prises de sang, on le voit, que le patient est sorti d'aplasie. Et tous les désagréments qu'il peut y avoir pendant cette période, finalement, vont disparaître complètement. Les désagréments, j'entends, quand on a une aplasie et qu'on n'a plus de défense immunitaire, on a un risque infectieux qui est majeur. Parce que les soldats de l'immunité et les petits soldats pour la défense de notre organisme au niveau des microbes, des bactéries, des virus, c'est les globules blancs. Et quand ils ne sont pas là, ben, il n'y a plus personne qui fait le boulot.
Bien sûr.
Donc il y a un gros travail de prévention avec des anti-infectieux pendant toute la période de l'hospitalisation et même bien au-delà. Donc on surveille fréquemment avec les prises de température si le patient n'a pas de fièvre ou au contraire d'hypothermie. L'aplasie, ça peut avoir une incidence au niveau digestif avec des nausées qui peuvent être très importantes et très mal supportées par les patients, des troubles digestifs avec des diarrhées qui sont fréquentes. Et un des points qui est aussi assez compliqué, assez mal toléré, c'est ce qu'on appelle la mucite. La mucite, c'est une inflammation en fait des muqueuses dans la bouche et qui peut descendre dans tout le tube digestif. Donc typiquement, c'est des douleurs d'angine, mais angine vraiment carabinée, à tel point que les patients se retrouvent souvent dans l'incapacité de boire ou de s'alimenter parce que vraiment déglutir, c'est très douloureux. Donc pareil, pour pallier à ça, on a une variété d'antalgiques qu'on met en place pour essayer de les soulager le plus possible. Et ce qui est incroyable, c'est que du moment que l'aplasie est derrière eux, tous ces effets indésirables et notamment la mucite, c'est quand même assez flagrant. Mais les douleurs, elles disparaissent quasiment instantanément après, finalement, la sortie d'aplasie. Donc ça, c'est vraiment... pendant cette période-là, en fait, on fait beaucoup de traitements symptomatiques. Le temps que la moelle osseuse recommence à produire les cellules, que l'aplasie soit derrière les patients. Et c'est vrai que du moment que l'aplasie est derrière eux, il n'y a plus du tout ces désagréments. Et en tout cas, toute la fatigue physique qu'elle peut engendrer et toutes les douleurs.
Ça, c'est... Pour eux, ça doit vraiment être une épreuve parce que, bon, le diagnostic de cancer, avec tout ce que ça implique, cette phase en chambre stérile, avec, j'imagine, voilà, des visites compliquées, ce sentiment de solitude dans la chambre, l'inquiétude qui est liée à ça, les effets secondaires de l'aplasie.
Alors, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. Le passage dans mon service, donc à la greffe, ça arrive pas au tout début de la prise en charge. Après le diagnostic, il y a une phase où on parle en fait d'induction, où les patients ont des chimiothérapies pour mettre la maladie en réponse. Et c'est souvent après cette partie-là que le passage à la greffe se fait. Donc, ils ont déjà une partie, voilà, une certaine connaissance de l'hospitalisation, des chimios, de certains effets. L'aplasie, en général, ils l'ont déjà eu avec des chimios précédentes. Mais par contre, l'hospitalisation dans la chambre stérile, c'est quand même une étape, je pense, qui est quand même appréhendée assez difficilement. Il y a quand même des choses qui sont mises en place avec les consultations pré-greffe avec nos médecins greffeurs, les entretiens infirmiers avec mes collègues à la coordination pour l'allogreffe ou l'autogreffe. En général, c'est vrai que c'est une hospitalisation qui est pas très bien vécue parce que on parle de chambre stérile avec des contraintes pour nous, pour rassembler les soins et pour essayer de faire le moins d'allées-venues possible. Mais le patient, quand il est dans sa chambre stérile, en théorie, il n'en sort pas. Du moment qu'il est en aplasie, ou en tout cas, on est même un peu plus strict, c'est du moment que les chimios commencent, on les protège tellement qu'ils vont sortir de la chambre pour partir à un examen, un scanner. Les radios, on essaie même que les radiologues ou les manips se déplacent en chambre pour essayer de limiter, parce que donc, tout le système de flux, d'environnement protégé, hautement protégé, il est dans la chambre du patient, mais dans les couloirs, c'est pas le cas, et dans le reste de l'hôpital non plus.
C'est certain, ouais.
Ils se rendent compte de, par exemple, la durée d'hospitalisation, ce que ça va comporter, même s'il y a des fois, il y a beaucoup d'informations qui est données d'un coup. Donc, nous, c'est vrai qu'on a un vrai travail de réexplication, de redonner les informations un peu au fur et à mesure de la prise en charge. Mais je pense que ce qui est le moins bien appréhendé, c'est vraiment l'enfermement dans dans l'hospitalisation et dans notre service, parce que voilà, on est assez regardant sur les allées-venues donc du patient en dehors de sa chambre. Et comme tu le disais, par rapport aux visites, quand j'ai commencé dans le service, les visites, on était quand même beaucoup plus souples. Pas plus de 2 visites par jour, mais ça pouvait voilà, être assez fréquent durant la semaine. Là, avec la situation actuelle, c'est pas concevable pour nous d'avoir des allées-venues aussi fréquentes.
C'est certain. Avec un tel risque de transmission.
Oui. Nos patients, ils sont vraiment... une grippe peut les tuer, finalement. Nous, on a... même nous, ça peut nous mettre en vrac, alors qu'on a des défenses immunitaires qui fonctionnent très bien. Mais quand il n'y a plus personne pour assurer notre protection à ce niveau-là, c'est vrai que c'est assez... assez compliqué. Donc en ce moment, les visites sont très limitées, ce qui, je pense, n'aide pas du tout au niveau, en tout cas, du moral et du psychique du patient. Je me suis toujours dit que d'être entourée dans un moment compliqué, une hospitalisation qui est plus ou moins longue, qui peut avoir son lot d'inquiétudes, d'incertitudes, d'avoir de l'entourage, des proches, des amis qui sont là, qui nous rendent visite, ça fait une bouffée d'air frais, les journées passent, les après-midi passent plus vite.
Ouais, c'est certain.
Et là que les visites sont limitées déjà de leur côté à eux, au niveau de leurs proches et de leur entourage, c'est vrai que c'est compliqué, sachant aussi qu'on limite beaucoup les intervenants extérieurs. Malgré tout, on essaie c'est en train un peu de, pas forcément de changer, mais en tout cas, on essaie de, d'être un petit peu plus souple à ce niveau-là. Au niveau du personnel soignant, on est quand même nombreux à être vaccinés, donc on essaie, voilà, de, c'est en train de repartir un petit peu tel que je l'ai connu à mes débuts.
Pour en revenir aux greffes, est-ce que tu as une idée du pourcentage de greffes qui sont donc des autogreffes et le pourcentage de greffes qui sont des allogreffes ?
Alors, oui, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans le service. On fait beaucoup plus d'autogreffes que d'allogreffes parce que les autogreffes, en général, les hospitalisations durent entre 2 et 3 semaines. Une allogreffe, selon le conditionnement, ça va plutôt être entre 6 et 8 semaines.
Ah oui, ok.
Donc la prise en charge est plus longue parce que finalement, la sortie d'aplasie peut se faire, on va dire, 15 jours après la greffe. Mais il y a des complications pour une allogreffe qui peuvent survenir après la sortie d'aplasie. On parle de réaction de la greffe contre l'hôte et c'est en gros entre 2 semaines et 1 mois après la réinjection des cellules où c'est le moment le plus critique pour voir une GVH aiguë, on va dire.
Est-ce que les patients qui bénéficient d'une allogreffe, donc d'une greffe d'autrui, reçoivent par la suite des antirejets au même titre que quelqu'un qui est greffé du cœur, du poumon, recevra des antirejets ?
On n'appelle pas ça des antirejets, mais on parle d'immunosuppresseurs. Associés aux chimiothérapies, il y a des médicaments, donc immunosuppresseurs, qui sont mis en place justement pour que l'immunité du patient soit quasiment inexistante, pour pas que d'emblée son immunité attaque les cellules du donneur.
Ah ouais, c'est tout un jeu pour, pour que la greffe soit reçue. Et ce traitement immunosuppresseur, il est à vie ou il dure juste un temps ?
Alors, il n'est pas à vie. En gros, il va durer au moins 3 mois jusqu'à un rendez-vous clé après l'allogreffe qui est 100 jours après la greffe où le patient a des prises de sang, de contrôle, des examens qui sont les mêmes qu'avant la greffe avec le bilan pré-greffe où on refait une radio, un scanner, une écho cardiaque, une échographie du cœur, un examen pulmonaire, un EFR, et donc des prises de sang. Et au détour de ce moment clé, tous ces examens sont avec le patient et avec le médecin greffeur, donc aux alentours des J100, J110. Et selon l'évolution de la suite de la greffe, le médecin décide de poursuivre les immunosuppresseurs un peu plus longtemps ou de les stopper.
Ok.
C'est pas des antirejets comme pour une greffe d'organe où là par contre c'est à vie.
Exactement. Ouais, ouais.
Parce que le but c'est que la moelle osseuse du donneur finalement remplace la moelle osseuse du receveur.
Oui, ça fusionne quoi. Ouais.
Et fasse le travail.
Au même titre que celle la sienne l'aurait fait avant.
De façon saine. Je me suis un tout petit peu éparpillée, mais pour faire juste faire écho à ta question, l'année dernière, en 2020, on a fait 140 autogreffes dans mon service. Donc, d'accord. C'est ce que je disais par rapport à l'hospitalisation qui est plus courte. Et par contre, 80 allogreffes. Je pense que c'est un record dans le service depuis qu'on est sur site.
Et sur ces allogreffes, est-ce que vous savez si ce sont des donneurs de la famille, du receveur ? Est-ce que ce sont des donneurs anonymes qui font partie du registre des donneurs ? Vous avez ça, une idée de la provenance ?
Alors, ça va en fonction donc, du type de greffe. Pour une greffe donc, géno-identique, c'est une greffe donc, dans la fratrie. En gros, moi j'ai une petite sœur, on a les mêmes parents. Donc, on a une chance sur 4 d'être compatible. Quand il y a une incompatibilité au sein de la fratrie, rapidement, on va se diriger vers le fichier, ce qu'on appelle une allo-fichier, finalement, une allo-fratrie, donc la différence entre les deux. Et donc, c'est faire appel au fichier national ou international des donneurs potentiels de moelle osseuse. Donc, maintenant, tu en fais partie.
Le fichier est international, alors. On pourrait faire appel à un donneur qui est ailleurs dans le monde. En Europe, peut-être
Oui. En fait, donc là, nous, en France, on est enregistré auprès de l'EFS. Mm-hmm. Mais par contre, leur fichier est commun. Enfin, il y a une base de données française. Mais par contre, il y a une mise en commun au niveau international. Nous, c'est vrai que nos allographes fichiers, ça arrive que ce soit des dons français, mais on a beaucoup de greffes de donneurs allemands, parce que je pense que dans les mœurs en Allemagne, le don est différent. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'aussi c'est rémunéré. Donc il y a cet aspect-là qui diffère un peu.
Bien sûr.
Mais j'ai aussi greffé des cellules américaines, australiennes, indiennes.
Donc ça, c'est écrit sur la poche que tu reçois, tu vois le...
Alors, si on pose la question, on le sait.
Okay.
Souvent, le receveur est au courant aussi.
D'accord, ok.
Et souvent, on fait la blague, oh là là, peut-être qu'après la réinjection, je vais parler allemand, ou je vais avoir envie de manger tel ou tel truc, parce que je sais que mon bonheur... C'est souvent rigolo, mais on en discute quand même quelques fois avec les patients.
Je ne savais pas que le don pouvait être international. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que pour le don du sang, on reste exclusivement en France, parce qu'on arrive à s'autosuffire.
Je pense.
Et que quand les stocks sont assez bas, si on fait un appel au don, on arrive assez rapidement à obtenir des stocks de sang... plus conséquent. Et tu vois, j'ignorais que pour le don, mais tant mieux, parce qu'en plus, voilà, quand on sait qu'on a une chance sur 1 million d'être compatible avec quelqu'un qu'on rencontre dans la rue,
ouais.
Heureusement que les fichiers sont mis en commun, quoi.
Donc voilà, c'est en fonction des besoins d'un receveur à l'instant T, si au sein de sa famille, donc il y a la fratrie, et j'en ai pas parlé, mais ses enfants, si le receveur a des enfants, ou ses parents peuvent être donneurs. C'est pas une greffe compatible à 100%.
Ah, ok.
Mais il y a quand même un matériel au niveau du typage HLA qui est commun, une compatibilité qui se fait. C'est pas les greffes qu'on envisage en première intention, mais par contre, quand il n'y a pas d'option, ça reste quelque chose qui peut être envisagé par les médecins.
Oui, ça sera toujours mieux que de ne pas recevoir de greffe si on ne trouve pas de donneur potentiel, quoi. Ah oui, donc ça, j'ignorais aussi. On peut voilà, avoir le donneur qui n'est pas parfait, mais oui. Qui pourra quand même traiter
la compatibilité au moins partiellement. 10 sur 10 ou 12 sur 12 au niveau HLA, c'est bien sûr recherché. Mm-hmm. Mais ça arrive que, voilà, on parle de greffe haploïdentique quand la compatibilité n'est pas, on va dire, à 100%.
Mmh.
Mais ça...
Ah, tu vois, je suis contente de pouvoir faire l'épisode avec toi parce que ça, déjà, ça répond très égoïstement à des questions que je me pose et je suis contente du coup que des gens puissent l'entendre aussi,
ah,
quoi.
Bah, super.
Comprendre à quoi peut servir le don et j'imagine qu'on manque cruellement de donneurs, quoi. Moi, c'était un peu le message que je voulais faire passer dans ce précédent épisode, d'inciter, voilà, les gens à.
Alors, moi, j'avoue que à mon échelle. Je me rends pas compte de. On a les lits qui sont rarement vides, on a des plannings qui sont quand même établis à l'avance. Pour une allogreffe, comme il y a deux personnes en jeu, une allogreffe, il y a toujours une date d'hospitalisation qui est définie, parce que de l'entrée d'hospitalisation du receveur va dépendre de la stimulation de la moelle du donneur, de son recueil de cellules. Donc, les cellules souches périphériques qu'on prélèverait comme un don de plasma ou de plaquettes, elles peuvent être congelées. C'est ce qui est fait de plus en plus maintenant à cause de la situation. Mmh. Par contre, un don de moelle osseuse, c'est...
Par fonction osseuse.
Oui. Voilà, donc directement un prélèvement osseux. En général, c'est réinjecté frais. Donc, maxi, le prélèvement, il est fait la veille de la réinjection. Donc, il faut quand même, au niveau de la coordination, un équilibre, je dirais, entre voilà, les dates pour le receveur qui coïncident bien avec les dates du donneur.
Le donneur se déplace sur le territoire ou non? C'est le don qui est acheminé très vite ensuite vers
le
patient. Enfin, je ne sais pas si tu sais d'ailleurs.
Le don est acheminé assez vite. C'est arrivé pour des donneurs familiaux que le proche ou le membre de la famille qui donne se déplace sur le site où la greffe va avoir lieu. Il est prélevé par nos médecins. Il n'y a encore pas très longtemps, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a un patient qui habite à Tahiti, je crois, ou en Polynésie. Sa sœur, la donneuse, a été rapatriée en France pour le prélèvement avant de rentrer.
Okay.
Quand on peut, on fait... Je pense que l'organisation est faite pour que le prélèvement soit fait, en tout cas... pour la France, hein, au niveau du centre greffeur.
Mmh. Oui, ça paraît plus logique que tout se fasse sur place pour la coordination des différentes équipes.
Oui.
Et techniquement, du coup, ces cellules, comment est-ce qu'on les réinjecte au patient, au receveur ?
Alors, les cellules, elles sont conditionnées dans une poche traitée par la thérapie cellulaire. Ça pourrait s'apparenter à une poche de sang ou de plaquettes. Donc, on les réinjecte en intraveineux, donc directement dans le sang du patient.
Comme une perfusion conventionnelle ?
Oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on le passe soit sur une voie veineuse centrale, donc dans un gros vaisseau qui va être proche du cœur, sur un porte-à-quatre, donc une chambre implantable sous la peau, ou sur un cathéter
central.
Et souvent, les allogreffes, ce qu'on préfère faire, c'est les passer sur un cathéter périphérique, donc plutôt au bras, pour que la greffe elle passe toute seule et qu'au niveau du cathéter central, on puisse continuer nous, à passer les soins particuliers.
D'accord. Okay.
Et la différence entre les deux, c'est qu'une autogreffe, elle passe pas crayon, mais elle passe assez rapidement. Selon le volume de la poche, ça peut aller jusqu'à 20-30 minutes. Une allogreffe, dans notre centre, on l'a fait passer en 3 heures.
Ah oui, ok.
Oui. Ce qui est différent d'autres centres, on a eu une collègue qui la faisait passer une allo ou une auto. Chez eux, il n'y avait pas de différence.
Ah oui, il y a des protocoles différents.
Oui. Nous, on fait en 3 heures, avec du coup une surveillance particulière au niveau du goutte-à-goutte, parce que les cellules sont... On va dire c'est des grosses cellules, le mélange dans la poche est assez épais, donc le débit peut varier parce qu'on ne le met pas sur pompe, c'est un débit avec la gravité.
Ah d'accord, ok.
Ouais.
J'étais persuadée que ça serait, voilà, que ça passerait par une pompe pour que ça soit délivré dans un temps très 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 précis.
Alors c'est pour nous les professionnels, mais c'est le même transfuseur que pour des plaquettes.
D'accord, ok.
Voilà.
Même matériel.
Okay. Ouais.
Et visuellement, ces cellules, elles, c'est une question très bête, mais elles sont de quelle couleur ? Est-ce que c'est
Alors, il y a une différence entre les cellules souches périphériques qui ont plus, on va dire, qui vont plus ressembler à des plaquettes, donc plus jaune ou orangé très clair, un peu
D'accord.
pâle. La moelle osseuse, elle est plus concentrée, donc on la verra plus rouge comme de la grenadine.
Ah, ok, d'accord.
Ouais, c'est un peu plus... C'est pas épais comme du sang vraiment rouge foncé, mm-hmm. mais ça, cette couleur qui est quand même assez différente entre la moelle, qui est souvent plus foncée, que les cellules souches périphériques.
Quand je l'imagine toujours la couleur du sang, mais voilà.
Non, c'est un peu plus clair.
On a la réponse, c'est plus clair.
Et voilà, il y a juste après une petite quand même surveillance particulière au niveau des constantes du patient, de la tension, de la température, mm-hmm. tout le long de la greffe. Et en général, on fait une prémédication avant avec un diurétique pour éliminer le volume que représente la poche et un anti-allergique parce que souvent, le produit de conservation dans la poche peut donner des petites réactions allergiques à type de frisson ou de poussée de fièvre.
D'accord. Voilà. Bon, toi, c'est un service dans lequel j'ai l'impression que tu t'épanouis beaucoup.
Oui, c'est un service qui m'apporte énormément. Ça fait depuis fin 2016 que je suis dans ce service et c'est très riche. Les maladies hémato, j'ai l'impression de, et encore tant mieux, mais d'apprendre des choses nouvelles tous les jours en allant travailler. Il y a énormément de progrès qui sont faits au niveau de la recherche avec de la thérapie ciblée, des protocoles particuliers qui sont en train d'être développés, donc c'est hyper intéressant. D'ailleurs, dans le service, je suis référente d'un essai clinique un peu particulier.
Ah.
Ça s'appelle des carticelles. En fait, c'est le même principe que pour le prélèvement de CD34, les cellules souches. Sauf qu'on va prélever des lymphocytes T qui vont partir dans un labo, être modifiés génétiquement pour avoir le marqueur de la cellule tumorale, réinjecté au patient. Et du coup, la cible va pas être... toutes les cellules de l'organisme, non, mais toutes
oui,
les
oui.
cellules du sang ne vont pas être détruites, mais vraiment que les cellules tumorales. Donc ça, c'est un progrès fou. Ça fait à peu près 2 ans maintenant dans le service qu'on s'en occupe. On a eu les accréditations et c'est assez chouette.
Ah, j'imagine les avancées de la médecine. Ouais, ça, vous devez voir ça de l'intérieur, c'est fascinant. Et puis... comme tu dis, l'impression peut-être de ne pas faire le tour de tout ce que tu vois tous les jours. Mais oui, mais en même temps, c'est en perpétuelle évolution.
Ouais. Il y a toujours des nouvelles ou des nouveaux protocoles, ou voilà, des thérapies ciblées qui sont proposées aux patients. Après, nous, c'est vrai que l'allogreffe, l'autogreffe, ça reste finalement tous les jours pareil, mais par contre, l'histoire de vie des patients est complètement différente, leur appréhension de la maladie, de l'hospitalisation, les ressources qu'ils ont à côté fait que, voilà, quand je m'occupe de mes patients, d'une chambre à l'autre, il n'y en a aucun qui est le même. Et en ça, c'est assez chouette parce que voilà, toutes mes journées sont différentes les unes des autres.
Oh, c'est génial. Merci beaucoup, Lucie. C'est vraiment génial d'en apprendre plus sur ce que toi, tu fais en tant qu'infirmière en service d'hématologie et puis de comprendre le chemin de la greffe de moelle, comment ça se déroule avec toutes ces subtilités. Ouais, c'est vraiment passionnant. Un grand merci pour tout ça.
J'espère que j'ai pu répondre soit à des questions, soit en apprendre plus sur l'hématologie, plus spécifiquement de mon service, mais au sens un peu large.
Ben ouais, j'en suis certaine. On va finir cet épisode avec le petit portrait chinois pour en savoir encore plus sur toi.
D'accord.
La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Alors, baguette magique, j'ai l'impression qu'il me faudrait une baguette avec un trident, avec une baguette ressource, comme un sac de Mary Poppins. Mais souvent, c'est juste avoir plus de temps parce que... nos patients, ils sont quand même assez complexes. Encore hier, au travail, on a passé une heure à faire les transmissions parce que je ne connaissais pas le secteur, je ne connaissais pas les patients. Et tout est très... De reprendre une hospitalisation qui dure 6 semaines, quand il reste 2 jours, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Ah ouais, donc, on résume pas ça en 2 minutes. Hein,
ouais. Donc, plus de temps. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a un médicament clé, donc un immunosuppresseur dans le service, qu'on dose régulièrement. Pour ça, selon le poids du patient, le type de greffe, on a des objectifs au niveau de ce médicament-là et on fait des prélèvements 2 fois par semaine. C'est un médicament qui est assez visqueux, qui passe sur voie centrale ou en comprimé quand on fait les relais. Et souvent, on ne fait pas le prélèvement sur la voie centrale parce que malgré purger la voie avant de faire le prélèvement, il peut toujours y avoir des résidus qui faussent les analyses. Donc très souvent, c'est un prélèvement qu'on fait en périphérique. Et j'aimerais qu'il y ait un petit boîtier comme pour calculer la glycémie du patient, où on fait juste un petit pic au bout du doigt et ça nous dit le dosage de la cyclosporine, en fait, pour savoir si le patient est bien dosé ou pas. Ce qui éviterait soit 2 prises de sang par semaine
par
en
semaine,
périph,
ouais.
Quand on a une voie veineuse centrale, c'est vrai que c'est hyper confortable parce que toutes les prises de sang sont faites dessus. Et quand il y a le médicament en péros, il y a même des résiduels qu'on appelle 3 heures après la prise pour savoir si le patient est bien dosé et savoir 3 heures après la prise s'il absorbe bien le médicament. Donc savoir si on mange bien, on boit bien, savoir si le corps assimile suffisamment la molécule.
Alors, un boîtier, hop, sur le bras de chaque patient.
Ouais, ou avec une petite lancette, et hop, une petite goutte du bout du doigt, et
exactement,
on donne la valeur.
Ouais, un système de recueil quand même un peu plus simple, ça serait bien volontaire.
C'est chouette.
question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail ?
Je crois que j'en ai 2. Souvent, je leur demande comment vous vous sentez ce matin ou cet après-midi, cette nuit, en fonction de mes horaires. Et surtout, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas à vous m'appeler. Ce qui n'est pas toujours fait d'ailleurs. J'ai l'impression que je le répète tous les jours. Et il y en a beaucoup encore qui me disent « Oui, ça fait 2 heures, j'ai mal à la tête. Oh, mais dites-moi. »
Mais appelez-nous.
Je suis là pour ça.
Ouais, vraiment.
C'est vrai
ouais.
que c'est, je pense, les 2 phrases que je dis le plus à mes patients.
Si tu étais un médicament, lequel serais-tu ?
Alors du coup, plus pour mes allogreffés, je serais du néoral. Le néoral, du coup, c'est la forme en comprimé de l'immunosuppresseur qu'on leur donne.
Okay.
Donc, je serais, je pense, le néoral. J'ai écouté la consigne, pas de paracétamol.
Ah ouais.
En plus, le paracétamol, chez nous, c'est triché. On en met très, très peu, parce que comme ça a une version antipyrétique, ça masque la fièvre et nous, ça ne nous intéresse
oui, du coup,
pas
c'est,
du tout.
Ça, au contraire, ça vous dessert.
Non.
Oui, c'est vrai que dans le petit mail que j'envoie à mes invités, donc je note cette question et je mets entre parenthèses interdiction de répondre paracétamol, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui répondraient ça.
C'est trop facile.
Néoral est une très bonne réponse. Question suivante, plutôt thé ou café ?
Café. Team café. J'adore le thé, mais au travail, c'est hyper rare que j'en bois. Je bois plus du café.
plutôt crocs ou basket ? Ou toute autre paire de chaussures ?
Alors, j'ai commencé à l'hôpital de jour, j'avais des baskets que j'adorais, bleu et rose, très beau.
Oh.
Maintenant, dans le service, on est plus crocs ou sabots de bloc parce que ça permet, après chaque prise de... Enfin, chaque poste, de les mettre à décontaminer.
Eh oui, vous les changez tous les jours, du coup.
Ouais, donc on
Oui, comme
a...
au bloc opératoire ou en salle de réveil.
Exactement, c'est
Ok.
le même style.
Question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an?
10 ans en hémato, pas dans un service en particulier, mais du coup, je travaille en hémato depuis 2015, donc on s'en approche, pas dangereusement, mais ça commence à
Ouais.
faire. Plus 10 ans dans la même spécialité,
C'est ça, ouais.
plus
Ok.
que 10 services en un an.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier d'infirmière, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée?
Du coup, on a un petit peu parlé au début avec le professeur d'histoire géo. Et sinon, alors c'est rigolo parce que souvent je me pose la question, je ne me vois pas faire autre chose qu'infirmière. J'ai l'impression que c'est ce qui est fait
T'es au
pour
bon
moi.
endroit. Ouais.
Mais par contre, comme j'aime bien lire, je regarde ma bibliothèque là, j'aime beaucoup lire. Et j'ai lu un livre où il y a le concept d'un salon de thé-librairie ou un truc comme ça.
Ah ouais.
Et ça, je trouverais ça trop cool de faire ça. Alors,
Ouais.
j'aurais le stress de louper les pâtisseries à chaque fournée, mais ou de faire ça à deux avec une copine, mais de monter un petit salon de thé où il y a des fauteuils un peu cosy, des revues, des petits magazines, où ce serait vraiment un lieu cocon pour passer du temps.
Bon, tu me tiens au courant, hein. Moi je serai la première cliente en tout cas.
D'accord.
Merci beaucoup Lucie pour ton temps,
Merci à toi de m'avoir reçu.
pour ce regard hyper intéressant sur ces services complexes. Je me dis que l'épisode il peut être écouté par des personnes qui sont peut-être déjà sur le registre des donneurs de moelle, qui ne savent pas ce que ça engendre derrière, des personnes qui se questionnent, peut-être des personnes qui ont des connaissances de la famille, qui sont dans des parcours peut-être de futures greffes de moelle osseuse. Et c'est génial d'en savoir un peu plus. Donc un grand merci pour tout ça.
Ah, mais merci beaucoup et avec grand plaisir. C'était trop chouette de partager mon expérience et si ça a pu apporter des réponses, mais j'en suis ravie.
Oh ouais, j'en suis certaine. Déjà, moi j'ai déjà appris beaucoup de choses pendant cet épisode, donc ouais, j'en doute pas une seconde. Un grand merci Lucie, à
Merci
bientôt.
beaucoup, à bientôt Marielle, bonne journée.
J'espère que cet épisode vous aura permis de découvrir un regard professionnel et très éclairant sur la greffe de moelle osseuse. Je vous glisse en description de l'épisode plusieurs liens pour aller plus loin. Tout d'abord, celui de l'agence de biomédecine, afin de remplir pourquoi pas un dossier pour devenir donneur de moelle osseuse, mais également un lien vers le site de l'EFS, l'établissement français du sang, afin de savoir où et comment donner votre sang. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.